Michael Israël est avec nous. Bonjour Michael, bienvenue.
Bonjour.
Associé fondateur d'Ivio Capital. Vous nous accompagnez ici régulièrement. Depuis que la dernière fois vous êtes venu, depuis deux mois en gros, il y a un petit changement quand même. C'est que ce segment obligataire, c'est globalement tendu à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça change ça pour ce pan du marché dans lequel vous investissez, à savoir les obligations d'entreprises émergentes?
Alors écoutez, pour les entreprises émergentes, ça peut paraître un petit peu surprenant d'ailleurs, mais on est plus que dans la résilience, on a plutôt des performances même assez bonnes depuis le début de l'année. Pour vous donner quelques chiffres, nous on est à peu près à l'indice est à peu près à 2% de hausse depuis le début de l'année en euros. Nous sur nos fonds on est environ à 2,4 et si on compare avec les pays développés sur le high yield européen, on est à 0,7. Le high yield américain, on est à 0,2. Donc, on a assisté même à de la baisse des spreads sur l'univers émergent, alors qu'il y a eu une augmentation des spreads sur les pays développés. Donc, on a plutôt un univers émergent qui continue à donner de la confiance. Il y a pas mal de flux. Les marchés restent très ouverts. Il y a ce sentiment, je dirais que ça s'explique cette performance. Il y a une double raison. Il y a un sentiment un peu généralisé de confiance dans les émergents, un peu par opposition à la défiance dans les développés, qui est quelque chose qui s'est un peu développé ces dernières années avec toutes les problématiques de dette. Et les investisseurs, on le voit même dans nos rendez-vous, au lieu de nous questionner sur est-ce que vous êtes inquiet sur tel ou tel thème dans les émergents, on sent une inquiétude sur le dollar, sur la courbe des taux américaine. Enfin, l'inquiétude, elle est portée sur les développés, avec par opposition un peu plus de confiance finalement sur la situation, qu'elle soit budgétaire, que ce soit sur les devises, les actions, oui, et les obligations.
Même si là, quand même, un effet pervers pour les émergents, c'est que les taux, notamment en Occident et au Japon aussi, montent, mais le dollar, du coup, monte aussi. Ça, c'est pas forcément très bon pour les entreprises émergentes.
Alors ça dépend comme toujours, puisqu'il y a des entreprises pour qui, je dirais, ça peut être neutre, comme notamment dans celles qui émettent sur les marchés de capitaux internationaux, émettent en dollars. Et souvent, elles ont des revenus en dollars aussi en face, donc on n'a pas forcément l'impact qu'on peut imaginer immédiatement négatif. Ensuite, quand même, le renforcement du dollar auquel on assiste, il est quand même pas si fort que ça non plus. Il aurait pu être d'ailleurs beaucoup plus fort. Donc aujourd'hui, c'est pas un critère qui a déstabilisé les marchés.
Antoine.
Est-ce qu'on peut avoir deux ou trois exemples de grosses sociétés avec de beaux rendements dans ce domaine-là?
Oui. Alors, je dirais, il y a, pour parler de société, je vais parler de deux secteurs d'ailleurs. C'est marrant parce que ce sont deux secteurs qui sont corrélés alors qu'ils sont aux opposés. Donc, si je vous dis le secteur de l'énergie, on peut le décomposer entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Et on a sur les énergies fossiles, évidemment, des grands, grands gagnants, hein, au niveau des entreprises. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut décomposer en deux aspects. Il y a les gagnants immédiats. C'est ceux qui ont la capacité à produire du pétrole, le vendre, voire à augmenter leur volume sans faire des investissements très importants. Donc là, on va évidemment retrouver l'Amérique latine, où aujourd'hui, il y a des grands bénéficiaires. Hein. Eux, ils ont un pétrole qu'ils peuvent produire, qu'ils peuvent vendre, qui est très compétitif en plus. Mais il y a des zones en Afrique, notamment, qui sont en train de regagner en compétitivité énormément. Et puis, il y a en Argentine aussi, avec tous les développements qu'il y a de pétrole de shale, un peu comme aux États-Unis. Mm-hmm. C'est un pétrole qui est très, très flexible. Et c'est un pétrole qui se vend très, très bien, qui bénéficie énormément de la situation actuelle. D'ailleurs, au passage, l'Argentine va bientôt atteindre le million de barils par jour, donc dès 2026. Donc, il y a des grands gagnants immédiats. Après, il y a des gagnants stratégiques. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Iran, c'est que pour beaucoup de majors, des Total, des Shell, Chevron, etc., on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un prix, une valeur à donner à la localisation géographique. Donc, si vous voulez sécuriser vos approvisionnements, si je prends l'exemple de la liquéfaction du gaz naturel, aujourd'hui, on regarde tous les projets dans le monde, mm-hmm. Vous avez à peu près deux tiers des projets qui sont aux États-Unis, Russie, Qatar.
Oui.
Bon, on a compris qu'aujourd'hui, il y a de la valeur à avoir des projets ailleurs. Donc, à nouveau, on va retrouver beaucoup de valeur sur des projets en Afrique, sur des projets en Argentine, parce qu'ils permettent tout simplement géographiquement de diversifier les sources de production. Et ça redonne de l'investissement, ça redonne de la dynamique. Côté énergie renouvelable, On a des entreprises, si je prends l'exemple en Inde, d'abord l'indice a beaucoup changé, parce que c'est intéressant parce qu'à chaque période, il y a des secteurs qui prennent de l'ampleur. Évidemment, l'électrification est dans les émergents, on passe directement à l'électrification renouvelable, on n'a pas à changer. On est dans le thème de l'électrification et on est déjà dans le renouvelable. Donc si on prend des pays comme l'Inde, alors d'abord dans les émergents, il faut savoir que par exemple le Brésil, 88% du mix énergétique est déjà fait à base d'énergie renouvelable.
88%, ils ont de l'eau, ils ont beaucoup d'eau.
Mais ouais. Il y a des pays où on est déjà à 100%, l'Éthiopie, le Costa Rica, c'est quelque chose qui est... Parce qu'on n'est pas dans une étape où on a déjà un réseau électrique et on doit le remplacer.
Oui, oui.
On est en train de le créer.
Il Donc, démarre tout de suite par le meilleur, en fait.
Ouais. Bah, exactement. Eh oui.
Alors, comme là, les métros, hein, toute civile où il n'y a jamais eu de métro, quand elles construisent aujourd'hui un métro, tout de suite, il est très en avance sur le nôtre. Quoi. Voilà.
Exactement. Oui. On n'a pas l'impression d'être... on est dans cette situation-là. Et donc, pour en revenir aux renouvelables, on a aujourd'hui des opportunités très intéressantes. Par exemple, en Inde, il y a des émissions obligataires. On appelle ça des project bonds. Pourquoi c'est intéressant? Il y a des besoins de financement énormes, donc il faut bien trouver du capital. Ce capital, il faut aller le chercher sur les marchés de capitaux internationaux. Il faut donner beaucoup de sécurité aux investisseurs internationaux. Donc d'abord, on est sur des financements en dollars, totalement dollarisés. Il n'y a pas de risque avec les monnaies locales. On est sur du droit international au niveau des contrats. Et en plus de ça, on est sur des project bonds. Ça veut dire que on va avoir une obligation qui est collatéralisée directement au niveau du projet. Et tous les cash flows du projet vont venir... En priorité, vont rembourser la dette. C'est pas comme une entreprise où vous faites une obligation d'entreprise,
oui.
Où vous avez l'entreprise qui va faire son business, puis si elle fait des bêtises avec l'argent, entre guillemets, elle peut faire des mauvais investissements, il n'en reste pas pour vous en rembourser, elle peut faire une distribution de dividendes. Là, tout ce que va générer ce projet va obligatoirement aller au remboursement de la dette, et en plus, ce sont des obligations amortissables, donc on se dérisque très très vite, on a des rendements de l'ordre de 7-8%, sur des obligations qui ont quand même des risques de crédit très intéressants, et des sponsors qui sont ni plus ni moins que le fonds souverain norvégien, le DFC, des sponsors internationaux de grande qualité.
C'est une entreprise indienne qui fait ça, c'est ça?
Oui, tout à fait.
On est en Inde. Le pays qui se détache en ce moment dans l'univers émergent, c'est lequel?
Alors, il y en a beaucoup. Oui. Franchement, il y a pas mal de pays où il y en a où ça se passe pas bien. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut pas ne pas parler de l'Argentine. D'abord, évidemment, parce que ce qu'est en train de réaliser Milei, c'est même, il faut se rendre compte que c'est même au-delà de ce que les marchés attendaient. Hein. Sur beaucoup d'aspects, c'est une réussite totale. Alors évidemment, ça reste l'Argentine. Évidemment, on a peur parce qu'il y a des élections qui vont arriver et que tout peut changer à la moindre élection. Mais en plus de ce qu'il a obtenu au niveau vraiment du budget, hein, enfin on va dire au niveau du souverain, il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur privé et les entreprises, puisqu'il y a beaucoup de privatisation. Si on reprend encore le secteur de la production d'électricité, par exemple, où il y avait beaucoup d'aides d'État, eh bien, il faut que ça s'arrête, puisqu'il est à la tronçonneuse. Hein. Donc, si vous arrêtez les aides d'État, ça veut dire qu'il faut trouver un relais de financement. Qui est le relais de financement? Le secteur privé. Et là, il y a donc des opportunités, puisqu'il y a des investissements qui vont être faits, et donc du besoin de financement qui apparaît.
Michael Israël, associé fondateur d'Iveo Capital. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
C'est très intéressant. On n'en parle pas assez de ces obligations émergentes, mais on est sur cet autre monde qui se bâtit, en tout cas cette autre souveraineté qui, parallèlement à la nôtre, parallèlement à notre puissance historique, est en train, elle aussi, de prendre sa part.